כל תושבי בת ים מוזמנים להצטרף לכנס למען ביבי נתניהו עם אריק שרון.
On est en plein dans l'actu ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Florence, d'Israël, de Moïse, de Georges Bataille, d'autofiction, de confessionnal et même de Moby Dick. Avec Avi Moghrabi pour l'intégrale de son cinéma en coffret DVD, en rétrospective au Jeu de Paume à Paris et en installation plastique à la Maison des Étalots pour un cinéaste performeur systématiquement face caméra, Lucille Comeau.
Portrait d'un documentariste qui a inventé une forme pour tenir toujours ensemble une réflexion sur l'État d'Israël et sur son propre État.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme, Jean-Marc,
Michael Mann.
19h35, plateau Florence avec Yannick Enel qui signe « Je cherche l'Italie », un récit d'écrivain au cœur d'une Italie bunga bunga confrontée à l'extase esthétique. Manu Farine.
Récit d'un écrivain donc qui se place sous la protection divine de Chrétien de Troyes, Dante et Kafka et repense le politique et la littérature par une éthique de la solitude.
Sans oublier Georges Bataille. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de Zoé Sfès que l'on ouvre d'abord avec le son du jour.
Je pense aux victimes du musée du Bardo. Je pense à ces hommes et à ces femmes, une fois encore, lâchement assassinés. Je pense à ces touristes qui venaient comme pour admirer la Tunisie et ce qu'elle peut offrir comme élément de patrimoine. Je pense aux Tunisiens qui accueillent déjà beaucoup de réfugiés venant de Libye et qui ont réussi une transition démocratique exceptionnelle. Oui, la France doit être solidaire. Et pour mieux affirmer cette solidarité, nous voulions ici, dans ce lieu de culture, dire que la France utilisera tous les moyens pour que la culture puisse continuer à être regardée comme une fierté pour l'humanité et comme une liberté pour les créateurs.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, un son de l'après-midi.
Un son de l'après-midi, vous l'avez reconnu, c'est François Hollande, président de la République, qui rendait hommage donc aux victimes de l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis. 17 touristes ont perdu la vie. Et aux Tunisiens, en répétant l'importance de la démocratie et de la culture, c'est un discours qu'il a prononcé depuis la cour Khorsabad, au Louvre à Paris.
Et c'est notre dossier du jour. François Hollande a en effet visité le département des antiquités orientales du musée du Louvre, accompagné par la directrice générale de l'UNESCO et par plusieurs chercheurs. Le but de l'opération, c'était d'afficher la solidarité de la France avec l'Irak et la Syrie, où Daesh n'a cessé, on le sait, de détruire le patrimoine millénaire qui date de la civilisation mésopotamienne. Visite avant tout symbolique, mais le président a aussi fait quelques annonces.
Oui, alors, pour faire ce petit rappel, vous le savez, Daesh a détruit en quelques semaines à peine plusieurs statues au musée de Mossoul en Irak, mais aussi les sites inestimables de Nimroud, de Ninive, de Hatra, en quelques semaines à peine. Tous sont des témoignages de cette civilisation mésopotamienne, l'une des plus riches, celle qui a inventé l'écriture notamment. Alors la question c'est que peut faire la France face à sa destruction? En matière d'action concrète, on l'a compris, pas grand chose, puisqu'il l'a répété tout à l'heure le président, la France n'a pas de mandat pour intervenir au sol en Irak ou en Syrie. Le but donc de cette visite de François Hollande, c'était avant tout d'attirer l'attention du public, y compris français, sur cette civilisation qui fait partie intégrante de l'identité syrienne et irakienne et qui n'a jamais été en opposition avec l'islam, comme l'explique Francis Johannes, il est professeur d'histoire orientale à Paris 1. Il dirige surtout l'unité de recherche archéologie et sciences de l'Antiquité au CNRS.
Alors jusque-là, ça n'avait jamais posé problème parce que précisément, enfin, si l'islam, c'est, enfin, la civilisation islamique s'est développée de façon aussi prestigieuse à Damas ou à Bagdad, c'est bien parce qu'il y avait un fond culturel qui était l'héritage de l'ancienne Mésopotamie et qui était parfaitement assumé. Ça n'avait jamais posé problème jusque-là. Et ici, bon, on a vraiment une vision fanatique des choses et contre laquelle il faut absolument lutter parce que c'est quand même vraiment le passé des Irakiens ou des Syriens qui est en cause. Et là, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'une ville comme Khorsabad, par exemple, a été victime des circonstances historiques de la destruction de l'Empire assyrien. Ce que nous avons actuellement est tout à fait différent, c'est-à-dire que c'est une destruction volontaire des œuvres et qui est absolument irréparable.
Et pour mieux faire connaître ces civilisations, François Hollande a annoncé une grande exposition consacrée à la Mésopotamie qui aura lieu au Louvre-Lens en 2016 avec le concours du musée de Bagdad.
Oui, et le président a annoncé toute une série de mesures un petit peu dans ce sens-là pour protéger, si ce n'est les sites et le patrimoine, au moins la connaissance de ce patrimoine. Donc, outre annonce, il y aura une mission du Louvre qui ira à Bagdad pour tenter d'évaluer les dégâts de Daesh en Irak, sur les territoires irakiens. La France, qui a été, on le rappelle, l'un des pays les plus actifs pour faire découvrir la Mésopotamie, notamment le premier musée assyrien, c'était en France, c'était au Louvre, va numériser toutes les archives dont elle dispose sur ses propres missions archéologiques depuis le début du XIXe siècle, pour les mettre à disposition notamment l'Irak. Et elle va aussi former de jeunes archéologues, aider les chercheurs qui travaillent sur la région, car si le patrimoine disparaît, le risque, c'est que avec lui, disparaisse aussi le savoir, faute de chercheurs, comme l'explique toujours Francis Johannes.
C'est un gros problème. Une bonne partie, en fait, de nos collègues irakiens a quitté l'Irak parce qu'il leur était impossible de travailler et sont soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Il en est resté quand même un certain nombre, mais il est bien évident qu'avec la situation actuelle, même à Bagdad, leur travail est particulièrement difficile. De même que le simple fait de se tenir au courant de la bibliographie, de ce qui paraît, etc. Et c'est un des secteurs dans lesquels on essaie précisément de garder le plus de contacts. Là, ça concerne aussi bien les Irakiens que les Européens, c'est-à-dire que l'impossibilité d'avoir accès au site et de travailler dessus fait qu'il y a actuellement une génération qui perd petit à petit le contact avec la réalité du terrain et les données qu'on peut en tirer, alors même qu'on sait que ce sont des pays qui ont une richesse fabuleuse de ce point de vue-là.
L'autre front, c'est évidemment la lutte contre le trafic illicite d'œuvres d'art.
Oui, alors on le sait, il y a effectivement les destructions, mais il y a aussi les pillages. La plupart de ces sites, ils sont encore inexplorés, enfin en tout cas ils ont encore plein de richesses à livrer. Les pillards en ce moment font main basse absolument sur tout. Daesh, on le sait, se sert aussi des œuvres d'art pour se financer. Dans quelle mesure? Clairement, impossible de le dire. On parle de 400 000 euros, mais l'Élysée n'est absolument incapable de confirmer ou pas. On sait en tout cas qu'il se sert de ce trafic de manière directe ou même indirecte, comme l'explique Pascal Buterlin, il est professeur d'archéologie orientale à Paris 1 et il est directeur de la mission orientale de Marie, un site à la frontière entre l'Irak et la Syrie.
Jusqu'à ce que le régime perde le contrôle de la région, le gardiennage était assuré sur le site et il y avait quelques pillages sporadiques, mais bon, c'était pas très grave. En 2012, les forces gouvernementales ont quitté la région et à partir de là, on a très peu d'informations puisqu'évidemment le gardiennage n'était plus assuré. Mon gardien m'a expliqué en partant que de toute façon, il était sous menace de mort et qu'il était obligé de quitter le site parce que les pillards se faisaient protéger par des tireurs qui empêchaient l'accès au site. On n'a aucune idée de qui sont les pillards. Nous, pour l'instant, les rumeurs, c'est qu'il s'agit essentiellement de locaux, des voisins qui simplement viennent piller le site parce qu'ils sont dans une situation économique désastreuse. Ce qui est clair, c'est que le site a surtout été affecté à partir du moment où Daesh a pris le contrôle de la région. Et là, on a de bons soupçons pour penser qu'effectivement, ils ont été directement impliqués, non pas dans la fouille elle-même, mais au moins dans le financement indirect par le prélèvement en particulier de taxes.
Voilà, des taxes. Pascal Marie fait donc partie des experts qui ont et qui vont travailler à la liste rouge. La liste rouge pour la Syrie, il y en aura aussi une pour l'Irak, à laquelle la France va participer, qui va donc permettre de lister tous les objets susceptibles d'apparaître un jour ou l'autre sur les marchés de l'art pour qu'ils puissent être donc identifiés et, pourquoi pas, dans un second temps, restitués.
On passe tout de suite au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec la mort du dessinateur de bande dessinée Irwin Hayson il y a 5 jours, mais elle vient d'être annoncée. Il était âgé de 96 ans. Ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a commencé comme dessinateur de presse avant de se tourner vers la BD. Il était connu notamment pour avoir illustré beaucoup de comics, comme notamment Wonder Woman, Green Lantern, Wildcat ou encore Le Petit Orphelin, Dombey.
Un biopic sur Angela Merkel sortira en 2017.
Tout à fait, c'est ce que vient d'annoncer la société de production allemande AW Gesellschaft. Il s'appellera donc ce film sobrement Angela Merkel. Il sortira en 2017, l'année des prochaines élections législatives en Allemagne. Le rôle-titre ainsi que le reste de la distribution seront pourvus d'ici l'automne. Le scénario a été rédigé par Dirk Kurbeuweit, un journaliste politique de l'influent hebdomadaire Der Spiegel.
Le président tadjik annonce la construction du plus grand et du plus beau théâtre d'Asie centrale.
C'est lui qui le dit, en tout cas ce sera dans la capitale d'Ushanbe, nouveau projet pharaonique pour cette ex-république soviétique très touchée par la crise économique. Le bâtiment fera 3 étages, il pourra accueillir environ 5000 personnes. Ce sera donc l'un des plus grands du monde puisqu'il se rapproche du Radio City Hall de New York qui peut en accueillir 6000 et qui aujourd'hui est le plus grand théâtre du monde.
Et la dernière ?
Et la dernière, c'est une histoire de musée, de ministre, de photos et de comment Fleur Pellerin a un pouvoir fou, en fait. Je vous raconte ça.
C'est cet après-midi au Louvre ?
C'était pas cet après-midi au Louvre, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, Fleur Pellerin est allée voir la rétrospective, enfin, au vernissage de la rétrospective Pierre Bonnard au musée d'Orsay. Donc c'était en fait lundi, pardon, je dis des bêtises. Donc tout début de la semaine. Et il se trouve que Fleur Pellerin, vous le savez sans doute, qui a beaucoup travaillé sur le numérique, qui est une grande fan des réseaux sociaux, elle tweete et notamment elle Instagram beaucoup ces réseaux sociaux de la photo. Elle a donc pris en photo deux œuvres de Bonnard en tweetant « Superbe rétrospectif Bonnard » qu'elle a donc mis sur Instagram et sur Twitter. Sauf que, alors déjà, bon, chacun a noté qu'en fait elle a dit « Musée d'Orsay », elle l'a écrit avec une majuscule « Musée ». Alors, mais pas le musée d'Orsay.
Ouais, enfin ça, c'est quand même, non, on peut faire un procès pour ça.
Mais surtout,
jusque-là.
Elle a été reprise par la Twittosphère, comme on l'appelle, mais la Twittosphère, il y en a certains qui étaient avertis, qui lui rappellent qu'en fait, à Orsay, jusqu'ici, il est interdit de prendre des photos. Et oui, vous le savez sans doute, elle rétorque, mais non, pas du tout. Je ne fais qu'appliquer la charte Tous Photographes. C'est une charte qui a été mise en place, il est vrai, il y a 5 ans, pour harmoniser les conditions. Vous vous rendez compte que vous savez très bien qu'on peut prendre des photos au Louvre. D'ailleurs, les touristes ne s'en privent pas avec la Joconde. Et donc, effectivement, il y a cette charte, sauf qu'elle n'avait peut-être pas vérifié, elle le savait peut-être pas. Orsay a toujours refusé de ratifier cette charte. Ni Orsay, ni l'Orangerie ne vous permettent de prendre de photos. Voilà, sauf que là, il se trouve que c'était quand même une ministre, c'était un petit peu compliqué de dire.
Quoi qu'elle fasse, elle a tort.
Non. Hein, et ben non, mais finalement, figurez-vous que non, elle a permis à tous ceux qui voulaient prendre des photos à Orsay depuis toujours de pouvoir le faire, puisque désormais, dans la précipitation, Orsay a fini par accepter, ainsi que l'Orangerie, de laisser aux gens la possibilité de prendre des photos. Il rappelle que le flash, les perches à selfie et les trépieds sont toujours interdits. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce problème de la photo dans les musées, vous pouvez regarder, il y a un superbe dossier sur le site de France Culture.
Merci Zoé. Vous savez, je crois que Fleur Pellerin en plus est copiste, c'est-à-dire qu'elle peint des tableaux.
Mais vous m'apprenez quelque chose.
Bienvenue à France Culture.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Yannick Enel ? Non. Avimo Grabi ? Non plus. Peut-être qu'elle-même quelque chose en réaction à la réélection de Benjamin Netanyahou, vous qui êtes connu pour l'opposition antisémite.
Ouais. Aïe. Terrible. What can I say ?
Terrible.
There was a moment of hope that.
Un moment.
Well, not a radical change.
On a eu l'espoir qu'il y aurait non pas un changement radical en Israël, mais du moins un changement d'ambiance avec le Parti travailliste. Mais apparemment, les Israéliens adorent Netanyahou. Il y aura un prix à payer.
De quel ordre?
Well. Our life will become more miserable. I mean, there's no our life and the life of others.
Notre vie et la vie des autres va empirer.
I believe in some that some kind of justice eventually.
Moi, je pense qu'il y aura la justice à terme. J'aurais préféré que l'on choisisse de changer notre destin plutôt que de nous projeter encore plus vers le bas.
Le rendez-vous.
Hello.
Shaya.
Medaber.
Alain Zavi, mon globi, ma chloucha.
Beseder. Hello.
Shaya.
Avi.
Manishma.
Beseder, boker tov.
תהיה לך אפשרות לשלוח לי את הבקשה הזו בפקס וכך הראשון. זה לגבי
הפרמרי? אתה חושב שאחרי הפרמרי זה יעבור?
אצלו אי אפשר לדעת כלום.
שלום, מר שרון. שלום לך. מדבר אבי מוגרבי. אנחנו שלחנו לך פקס
Plateau Autofiction avec vous, Avimo Grabi, réalisateur israélien. Un parcours qui commence à la fin des années 80. Vous êtes de passage en France à l'occasion de la sortie de l'intégrale de vos films en coffret DVD chez Epicentre Film, d'une rétrospective de votre cinéma au Jeu de Paume à Paris et d'une installation vidéo à la Maison des Métallos, toujours à Paris et non pas la Maison des Étalons, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Lucille.
Votre premier long métrage, c'était en 96. Il s'appelait « Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon ». Ensuite, entre autres, il y aura eu Z32, un documentaire musical, c'était en 2008, sur le témoignage d'un soldat israélien qui revenait sur ses crimes de guerre. Ou encore, le dernier, « Dans un jardin, je suis entrée », c'était en 2012, et ça prenait la forme à la fois d'un dialogue et d'un road movie entre vous et un ami arabe israélien.
Ce qu'on comprend donc, c'est que votre cinéma est le lieu d'un travail sur l'identité israélienne et sur votre identité à vous, entre documentaire et autofiction, avec un dispositif qui revient systématiquement, c'est vous à l'écran, face caméra, et qui faites part de vos interrogations sur le film. Quand est-ce que votre intervention dans vos films s'est mise en place ? À quelle occasion ? Avi Moghrabi, traduction simultanée, interprétation, on peut le dire.
I don't think it was a conscientious decision.
Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une décision consciente. Ça a commencé avec le film où je parle d'Ariel Sharon. Il a fallu que je joue un rôle pour que Ariel Sharon ne sache pas qui je suis et quels sont mes points de vue politiques, sinon il n'aurait jamais été d'accord pour que je m'approche de lui. Donc le film a été un échec. Je n'ai pas su saisir ou pu saisir le monstre qui était en lui. Les choses ont viré et c'est devenu un film sur le réalisateur et sur la possibilité de peut-être devenir un suiveur, voire un disciple de ce personnage funeste. Donc, j'ai joué ce rôle et le prix à payer, c'était que la femme du réalisateur donc, a quitté le réalisateur, étant donné qu'il a décidé d'être un disciple d'Ariel Sharon.
Ça, c'était plus de la fiction que de l'autofiction. Une autre question par rapport à ce dispositif où on voit face caméra, est-ce que ça peut venir aussi de votre formation aux arts plastiques, de vos études en art ? C'est-à-dire, je crois que vous avez peint, fait de la performance et des vidéos. Est-ce que ce côté performeur, ça vient aussi de là, de ces années-là ? Avi Moghrabi.
Well, maybe being a performer maybe started when I was early on a child. You know, I played in a film when I was 10 years old.
J'ai joué dans un film à l'âge de 10 ans. Frame Kishon Arbinka. Donc j'ai joué dans ce film à l'âge de 10 ans. Donc j'étais un petit peu comédien. Et lorsque j'ai été étudiant en art plastique, j'ai fait pas mal de vidéos, d'autoportraits, des installations vidéo. Donc ça, c'est un autre point de départ qu'il faut citer comme explication. Mais sinon, je suis revenu à ce vieux rêve de faire du cinéma. Mon père avait un cinéma à Tel Aviv, le cinéma Moghrabi, assez connu. Et comment dire, par nécessité, je me suis retrouvé le visage à l'écran, présent dans les films, et je ne regrette pas tellement cela. Je suis assez satisfait de me voir à l'écran.
Oui, parce qu'il faut dire que Moghrabi, c'est vraiment une institution du cinéma. Votre grand-père et ses frères avaient construit le premier cinéma parlant dans les années 30 à Tel Aviv, et puis votre père était projectionniste de ce cinéma. À ce sujet d'ailleurs, quels sont les films, ou les acteurs, les réalisateurs, qui vous ont marqué pendant votre enfance, pendant que vous regardiez ce cinéma, le cinéma de vos parents ? Avi Moghrabi.
My father, who's already dead, would be very sad to hear it. But I think that I with him I saw mostly shitty films.
Mais il serait peut-être pas heureux d'entendre qu'avec lui j'ai vu beaucoup de films merdiques. Mais à part ça, sans mon père, j'ai commencé à voir des films que j'apprécie davantage et qui restent en moi davantage. J'aime beaucoup Chantal Akerman, bien que mon travail n'ait pas grand-chose, voire rien à voir avec le cinéma de Chantal Akerman. Le cinéma iranien me plaît beaucoup.
I appreciate very much Pichat Pongver Istakul and Robert Kramer and all those I show on the carte blanche at Jeu de Pomme.
Tout cela sont des réalisateurs que je me permets de faire projeter dans le cadre de la carte blanche qui m'est consacrée ici à Paris.
Lucille Comeau.
Je reviens à ce dispositif selon lequel vous êtes souvent face caméra. Vous vous appelez ça un confessionnal. Et il y a toujours une forme de culpabilité un peu latente dans votre posture de réalisateur. Par exemple, dans votre premier long métrage sur Ariel Sharon, vous le disiez tout à l'heure, vous ne cessez d'exprimer vos remords, de faire de Sharon quelqu'un de finalement assez sympathique. Dans Z32, vous exprimez votre crainte à plusieurs reprises aussi de donner la parole à un criminel de guerre dans un de vos films, de l'abriter à l'intérieur d'un de vos films. Est-ce que le cinéma, pour vous, ce serait l'occasion justement d'expier une faute liée peut-être à l'État d'Israël, à l'État dans lequel vous vivez, à Avi Moghrabi?
Je ne suis pas sûr que le cinéma soit le lieu propice pour traiter la notion de culpabilité, ou si c'est précisément cela que je fais d'ailleurs. À l'écran, je traite des questions qui se posent lorsque l'on rentre dans la réalité. On arrive dans la réalité, on essaye de raconter une histoire, et bien la réalité vous revient dans la figure. Et on remet en question la réalité, et la réalité questionne justement ce que vous êtes en train de faire. Et à mes yeux, c'est là que l'on fait des vrais films, dans ces dilemmes qui résultent de la réalisation de films sur la réalité et les questions éthiques qu'il faut se poser en essayant de raconter l'histoire du monde tel que vous le percevez. Et c'est parfois une perception très différente de celle que voudrait vous voir décrire l'État, par exemple.
Dans une interview au magazine SoFilm en 2013, après « Dans un jardin, je suis entré », hein, c'était le dernier film qu'on a pu voir, vous aviez l'air très déprimé et vous disiez d'ailleurs vouloir arrêter le cinéma. C'est toujours le cas. Avi Moghrabi.
Well, I'm making a new film now.
So non, je suis en train de tourner un nouveau film là maintenant.
But it's not about a happy situation.
Mais la situation n'est guère joyeuse. Il s'agit des gens qui cherchent asile en Israël, des Érythréens, des Soudanais, et l'État d'Israël, qui est un État de réfugiés, créé par des réfugiés pour des réfugiés, fait tout ce qu'il peut pour repousser vers leur pays d'origine où il y a la mort qui les attend. Alors, je ne suis pas particulièrement joyeux, déprimé au point de ne pas faire de film non plus, mais je suis suffisamment déprimé pour faire un autre film.
C'est comment ?
Je crois justement que Dans un jardin, je suis entré n'avait pas été commercialisé en Israël. C'était le cas ? Comment vous êtes perçu ? Comment vous êtes distribué dans le circuit cinématographique là-bas ? Avi Moghrabi.
Look, it's very rare that documentary films are distributed commercially.
Il est rare que les documentaires soient l'objet d'une distribution commerciale en Israël. Même, alors il y a eu Être et Avoir, qui a été diffusé. Michael Moore a été vu par de nombreux cinéphiles israéliens, mais les documentaires israéliens, eux, sont rarement projetés dans des salles de cinéma. Moi, j'ai eu mes projections à la Cinémathèque, j'ai été diffusé sur une petite chaîne de télé, c'est comme ça que ça fonctionne et je ne m'attends à guère plus.
Votre premier court-métrage, c'était en 1989, c'était un film très étrange, presque muet, une fiction, dans un lieu clos, une sorte de fosse à ciel ouvert, des hommes sont amenés, ils sont menottés, ils sont en hélicoptère, et expulsé. Et le titre, c'était Déportation. Quel sens prenait ce premier geste de cinéma dans le cinéma israélien à la fin des années 80, au moment de la première intifada, pour vous ?
Quand j'ai fait ce film, j'espérais qu'il y aurait une signification dans le cadre éthique et politique de l'époque. S'agissant des actes de déportation de leaders palestiniens, déportation menée par l'État en raison de leur participation à l'intifada. Rétrospectivement, ce film qui a une vingtaine d'années, eh bien, je le trouve chouette. Je l'aime beaucoup. C'est un beau film à mes yeux. Je ne suis pas sûr qu'il était conçu pour s'intégrer dans le discours politique de l'époque. C'est pourquoi, par la suite, j'ai commencé à faire des véritables documentaires, ou disons des documentaires mélangés à la fiction, de manière à avoir un public un petit peu différent.
Des réactions de votre côté, Yannick Enel, à tout ce que vous venez d'entendre ?
Moi, ce qui me frappe dans le film que j'ai vu, c'est Z32, c'est surtout l'humour en fait. C'est-à-dire que là, c'est un burlesque politique. Et ça, je crois que c'est vraiment, enfin, cette solitude-là, face écran, relève à la fois d'un défi. Enfin, on est en dehors d'une parole militante et c'est le corps qui est en jeu. Enfin, c'est une expérience, voilà. Pour moi, ça relève de quelque chose qui est très proche de l'idée que je me fais de la littérature.
Voilà, c'est un dispositif très simple, une parole et le corps qui devient politique.
Thank you very much. You know, I cannot put two words one after another. So
merci. J'ai du mal à aligner les mots, vous savez, moi.
Describe as a writer. Can I have
Donc,
it in writing?
Écrivez ce que vous venez de me dire, parce que ce compliment de dire que je suis un écrivain, j'en suis bouleversé.
But seriously, in Z32, I've chosen
dans
Z32,
j'ai choisi un autre dispositif différent de celui des films précédents. J'ai décidé de chanter
dans Z32
avec huit musiciens. C'était dans mon salon. J'ai chanté des chansons écrites pour le film et donc j'ai des doutes quant à mon rôle de réalisateur, de militant, d'être humain. Et c'est devenu un petit peu comme une chorale grecque, un théâtre antique, un petit peu. Et j'espère pouvoir chanter à nouveau, qui sait, plus tard.
Eh bien, on en écoute un extrait de Z32.
זה פשוט כל כך אבסורדי, אין לי את המילים הנכונות והמדויקות לתאר את זה, אני לא יודעת.
זה קרה באי שם, אל תביא את זה הנה. אל תביא את אי שם. זה סיפור על אחד חייל הוא חונך והפנים ששייך הוא לטובי הבנים.
Lucille.
Alors Z32, justement, c'est pas du tout le nom comme on peut l'imaginer quand on lit le sujet du film d'une zone militaire. C'est le nom du groupe de musique qu'on entend là, avec lequel vous avez travaillé pour le film. Toutes les parties qui vous concernent, vous le disiez, sont musicales. Vous chantez face caméra, accompagné par des musiciens. Qu'est-ce qui, dans le sujet, justifiait une telle forme, Avimo Grabi?
Le sujet, c'est un soldat qui revient sur son crime.
Nothing.
Rien. C'est une bonne question, hein, pourtant. Il fallait que je me demande pourquoi chanter. Mais ce film, c'est devenu un petit peu comme le théâtre grec antique, et un petit peu à notre insu, parce que le soldat a exigé que son identité reste inconnue. Et la solution artistique que nous avons trouvée consiste à lui donner un masque numérique, le visage de quelqu'un d'autre, autrement dit. Et ainsi, il est devenu un acteur de ce théâtre antique grec, sans que l'on ait pu le prévoir. On voulait faire le film, mais on ne pouvait pas l'intégrer dans le film sans trouver une solution pour que son identité ne soit pas révélée, parce qu'il fallait ses expressions faciales, ses expressions psychologiques, physiques, et ainsi de suite. Comment faire? Eh bien, avec cette approche, une fois brisées les règles du documentaire, on a quand même réussi à créer cette solution. Et peut-être que ça m'a permis de changer la façon dont je m'adresse face caméra. Et j'ai pu chanter, et donc c'était un dispositif nouveau pour moi. Je ne me sens pas la nécessité de justifier le dispositif, si le film survit. Bon, le film est là, donc j'en parle, on fait comme ça.
Comme à tous nos invités, Avimo Grabi, on vous a demandé d'apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. Bien, c'est encore de la musique.
Mi shenichna sada, mi sheyatza yasha chataf, achsha vemerichim. את הגלדיולות מלמטה ובתשרי נתן.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Avimo Grabi.
Basically, this the chorus of this song says.
Dans le refrain, il est dit que la majorité a décidé que la minorité nous préparera une tasse de thé. Tout s'effondre, il fait froid, c'est pas bon ce breuvage, mais comment survivre sans une tasse de thé? Et voilà, c'est le sentiment dans lequel je me trouve précisément aujourd'hui après les élections israéliennes. Et la musique est de Naomin Barr, qui a écrit la bande originale du film, de mes deux derniers films, et qui a écrit les chansons de Z32.
Une dernière question à Vimo Grabi. Vous avez été l'assistant de Claude Lelouch sur le tournage de La Belle Histoire en 1992. Un souvenir de ce tournage?
Oui,
je me souviens très bien de Lelouch. C'était très impressionnant de voir comment Lelouch a ce livre d'idées entre les mains, mais malgré cela, il improvise de manière incroyable. Bon, il y a des formidables comédiens, Béatrice Dalle et ainsi de suite. Et Vincent Lindon, et il improvise sans arrêt, il porte la caméra à l'épaule, c'était étonnant de le voir faire.
Ça vous a appris quelque chose sur votre propre travail de réalisateur?
Sans
doute, oui, j'ai appris pas mal de choses sur la liberté que le réalisateur doit s'approprier sur le tournage, non pas lorsque les choses vont bien à la maison, hein, lorsqu'il est sous pression.
Vous pourriez repasser du côté de la fiction, comme à vos débuts, à Vimo Grabi?
If I make fiction films, aren't I?
Mais c'est pourtant ce que je fais, non?
Bien sûr.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
À Vimo Grabi et Yannick Enel, on vous retrouve dans quelques instants. Mais la chronique, tout de suite, du mercredi, celle de Jean-Marc Lalanne. Ce soir au programme, Michael Mann, deux films.
Deux films, ouais. Une double actualité, un film donc, qui est son nouveau film, qui s'appelle Hacker, qui est magnifique et qui sort en salle aujourd'hui. Et un film qui est son premier film, qui a été tourné en 1981, qui s'appelle Le Solitaire, et qui sort à la fois en Blu-ray et en DVD, assorti d'un livre d'entretien avec Michael Mann, chez l'éditeur Wildchild. Alors c'est assez intéressant de voir les deux films simultanément parce que c'est vraiment presque le même film et on se dit que tout ce qu'on aime aujourd'hui chez Michael Mann était déjà très 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 en place il y a 34 ans lorsqu'il tourne Le Solitaire. Alors déjà les deux films racontent la même histoire, c'est l'histoire d'un homme qui sort de prison. Dans Le Solitaire, c'est James Caan, qui est un perceur de coffres, qui sort et qui aimerait se ranger, avoir une vie très, très calme. Mais pour ça, il a besoin de faire un dernier gros coup avant de se ranger. Et évidemment, ça va être plus compliqué
qu'il ne le pensait.
Et 34 ans plus tard, le film démarre aussi avec le héros qui est Chris Hemsworth.
Dans Hacker,
voilà, qui est Chris Hemsworth, qui est la star de Thor, le super-héros, un peu scandinave. Et Chris Hemsworth est en prison, où d'ailleurs c'est assez amusant, il est Derrida et Foucault en prison. Et c'est aussi un bandit, mais un bandit de l'ère du virtuel. C'est-à-dire c'est un hacker qui pille les banques, mais en infiltrant leur système informatique. Et donc lui va être engagé par le FBI, en fait, pour démanteler un réseau de cyberterroristes. Donc c'est deux figures de solitaire, deux hommes qui sont à la fois hors la loi, mais aussi un peu du côté de la loi, dans une position comme ça d'ambiguïté, et deux hommes qui cherchent une rédemption et qui vont la trouver dans l'amour. Parce que si c'est un univers très très masculin, le cinéma de Michael Mann, c'est aussi un grand cinéaste d'amour en même temps qu'un grand cinéaste d'action. C'est-à-dire qu'il y a des personnages secondaires très forts. On se souvient de Gong Li dans Miami Vice, où il y avait comme ça une échappée romantique incroyable en plein cœur du film. Dans Le Solitaire, il y a une scène de 10 minutes où James Caan met son cœur sur la table et avoue son amour à la femme avec qui il a envie de passer sa vie. Et c'est 10 minutes de dialogue en chant contre chant. Et c'est un moment de stase inouï dont on trouve l'équivalent chez Antonioni, quoi. Et cette manière qu'il a d'alterner des stases avec des moments d'accélération sidérante, comme la fin de Hacker, qui est vraiment trépidante et où on suit ça le cœur battant, c'est vraiment très très fort. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans les deux films, en fait, c'est le métier des personnages. Parce que dans le premier, il est donc perceur de coffres, il y a de très très beaux plans où on le voit faire fondre de l'acier, le triturer, le tordre, le manipuler. Et c'est évidemment une mise en abîme de sa pratique de cinéaste, parce que ce que fait Michael Mann depuis ses débuts et qu'il n'a jamais cessé de faire, c'est essayer de faire fondre du métal. C'est-à-dire que c'est vraiment le grand cinéaste des ensembles urbains, de l'architecture, du design, de l'acier. Mais chez lui, c'est comme si le monde était affecté d'un système gravitationnel différent. C'est-à-dire que le monde n'a pas le même poids, la même pesanteur. Les skylines de buildings ressemblent à de la dentelle. La ville la nuit est un pur assemblage de couleurs et de lumières. C'est comme s'il confisquait au monde son poids réel. Et dans Hacker, évidemment, comme c'est un informaticien, donc quelqu'un qui travaille moins sur le réel que sur sa doublure virtuelle, en fait, ce que ça raconte, c'est la révolution qu'a connue le cinéma de Michael Mann avec la rencontre du numérique, qu'il a rencontré il y a 10 ans avec Collateral, et qui encore plus lui permet de déréaliser le monde et de faire de lui vraiment le très grand cinéaste de la dématérialisation du monde dans lequel on vit. Et vraiment, en voyant les films de Michael Mann, on a le sentiment de redécouvrir la texture du monde dans lequel on vit.
Yannick Haenel, vous qui êtes très sensible à la solitude, est-ce que vous feriez un commentaire sur les deux figures de solitaires qui donc sont au cœur du cinéma de Michael Mann?
Alors moi je n'ai pas vu ces deux films-là, mais je suis un fanatique de Miami Vice et Collateral. Et j'aime cette plasticité, alors vous dites antonionienne, effectivement, je n'y avais pas pensé, une plasticité gris-bleu, métallisée, à tel point que les personnages eux-mêmes, à un moment, deviennent de la substance de la ville. Enfin, Tom Cruise croise un loup en pleine nuit, tandis qu'il va s'employer à une succession de meurtres. Et on voit, l'idée, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a plus de monde. Le monde existe peut-être dans le surgissement d'un loup dans une ville, et peut-être ce Tom Cruise aurait pu être ce loup. Voilà, cette solitude-là, c'est celle d'un capitalisme urbanisé, planétaire.
Michael Mann, ce n'est pas véritablement le cinéma de Chantal Akerman, mais c'est un cinéma qui vous intéresse, Avi Mograbi?
Je ne connais pas très bien le cinéma de Michael Mann, désolé.
Il dit ça avec un très grand sourire.
19-20, le rendez-vous.
Plateau Extase avec vous, Yannick Haenel, écrivain, auteur notamment du Cercle, de Yann Karski, prix du roman Fnac et prix Interalli en 2009. Vous signez aujourd'hui un récit, Je cherche l'Italie chez Gallimard, un récit inspiré par 4 années que vous avez placées à Florence entre 2011 et 2014. Au fil des pages se dessine bien sûr la ville, ses murs, le contexte politique berlusconien. On y croise Frangelico, Uccello, mais aussi Dante, Georges Bataille, Kafka, François d'Assise, et puis un plaidoyer pour une esthétique et une éthique de la solitude. Vous écrivez vos déambulations dans la ville, les tableaux, les sculptures, les murs, beaucoup de murs, vos rituels de promenade répétés. Qu'est-ce que la ville et l'expérience de cette ville aura imprimé à votre écriture?
Alors quelque chose de l'ordre de l'impact, d'un impact qui a pu trouver sa propre lenteur, un impact qui a été d'autant plus fort que j'ai pu me soustraire, je dirais, à l'emploi du temps pour ne plus faire qu'un usage du temps. J'ai eu la chance de me trouver, non pas en situation touristique, mais en situation, je dirais, existentielle, dans cette ville a priori morne qu'est Florence, qui est une ville esprit, disons, qui est une ville musée, comme on dit, mais surtout une ville esprit. Et donc, je me suis pris de plein front, à la fois ce qu'il en est de voir aujourd'hui des fresques, pas 3 minutes comme on le fait lors d'une visite, mais chaque jour pendant des heures, Frangelico, Paolo Uccello, et surtout ce qu'il en est des conditions sociales, enfin de la désintégration politique en Italie. Moi, je suis arrivé en 2011, c'est-à-dire à un moment où Berlusconi régnait encore, ça faisait déjà 17 ans, et où le scandale du Bunga Bunga a vraiment fait vriller l'opinion publique. Et donc pour moi, c'était la cohabitation très étrange entre ces deux impacts. Le politique comme auto-désintégré et le surgissement étrange, épiphanique, très seul, presque pauvre, des œuvres d'art qui sont suspendues pour un pur échange commercial, mais qui sont là pour toujours et à jamais. Donc c'était, j'essayais de penser, si je puis dire, dans ma vie quotidienne, cette cohabitation étrange. Enfin.
Manu Farine.
Vous annoncez, Yannick Haenel, dès le départ, les enjeux de votre installation à Florence, hein, faire le point, vous l'écrivez même en majuscule, un point qui passerait notamment par cette quête de la solitude, ou plutôt une forme d'éthique de la solitude. De quoi est-elle faite, cette solitude, hein? De quoi est-ce que vous la chargez de détachement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un rapport justement avec François d'Assise que vous citez abondamment?
Alors au fond, au départ, c'était un point vide, c'est-à-dire que ça n'était chargé de rien d'autre que de me rendre disponible au temps. Et effectivement, ce vide s'est chargé ou s'est accompli à travers des figures. Alors le livre déborde effectivement de noms propres, enfin je suis désolé, il y a presque que ça. Et je me suis tourné assez vite vers, entre autres, Saint-François d'Assise, pour une raison très précise, c'est que ce qui lui est arrivé de plus
violent, c'est-à-dire l'expérience des stigmates. C'était pas en Ombrie, c'était pas à Assise, mais c'était en Toscane, à la Verna, à la Verne, dans un petit sanctuaire qu'on lui a offert au moment où précisément il en avait assez, vers 43 ans, de la communauté, du travail de la communauté, et où il s'est permis de briser la règle et de devenir seul. Dans la plupart des communautés religieuses, la solitude est un peu, elle n'est pas proscrite, mais elle est, on s'en méfie, puisque c'est dans la solitude, le diable a prise sur nous. Et voilà, Saint François d'Assise, je suis allé énormément de fois voir ce sanctuaire, qui me semblait, là aussi, on parlait tout à l'heure de Michael Mann, et on se demandait s'il y a un monde, s'il y a un point qui échappe à la société intégrale, disons, au fait que la société nous absorbe. Alors effectivement, Saint-François d'Assise, c'est ça, c'est cette trouée. Et c'est surtout un rapport dans un pays plombé par la richesse exubérante de ses dirigeants. C'est un point de pauvreté, et de pauvreté souveraine, en fait.
Au milieu du livre, exactement, vous êtes dans un avion et puis vous lisez La Repubblica et vous apprenez les 300 morts de Lampedusa. Et ça correspond à tout un fil rouge qui commence dès le début du texte, puisque quand vous arrivez, c'est le début du récit, mais c'est aussi votre arrivée à Florence, vous rencontrez Issa, un jeune Sénégalais vendeur de porte-clés et de chewing-gum. Qu'est-ce que prend en charge cet homme qui revient dans le récit et qui va notamment revenir à un moment donné où vous lui confiez votre impossibilité à écrire le roman dont vous êtes en charge, Yann Karski?
Mais effectivement, les renards pâles. Ah, les renards pâles.
Non, Yann Karski, je voulais dire Yannick Enel. C'est dingue, j'en étais sûr.
Mais c'est bien qu'on continue à m'identifier à Yann Karski. Je suis très fier de ça. Je sais que ça en énerve beaucoup, mais... Du coup, je suis troublé, là. Oui, Je cherche le Thalys, c'est un livre sans héros. En revanche, c'est un livre tissé de rencontres. Et à Florence, pendant ces 4 années... Je n'ai cessé de rencontrer, pour le dire comme ça, de manière simple, des sans-papiers, pour la plupart sénégalais, qui venaient de Lampedusa, qui se refusaient d'ailleurs à parler français avec moi, parce qu'ils ont presque des ordres d'intégration, et des jeunes gens qui, devant les cafés, vendent des mouchoirs et doivent tous les soirs rapporter de l'argent dans un coin en banlieue où ils partagent une couchette qu'ils doivent payer 100 euros par mois. Et donc là, il faut en vendre des mouchoirs, hein, 100 euros. Et toujours est-il que j'ai rencontré 3 jeunes Sénégalais, je ne parle que d'un d'entre eux, qui s'appelait Issa. Je lui ai dit tout de suite que Issa, en arabe, ça voulait dire Jésus, ouais. Il faisait rire, lui aussi. Et on avait des conversations littéraires. Donc je lui confiais tous les matins, puisque j'allais écrire dans un café, que j'arrivais pas à écrire ce livre qui s'appelle Les Renards Pâles, qui était une tentative justement d'essayer de fomenter dans mon esprit une insurrection de sans-papiers à Paris. Et bon, j'ai trouvé ça extravagant et ça lui plaisait. Mais on a eu des conversations sur précisément ce qu'il en est d'être protégé ou d'être sur l'hostilité et la faveur, voilà. Et lui, ce qui l'intéressait, cet homme que je n'ai plus revu, d'ailleurs, il a disparu un jour, ce qui l'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qui me protégeait, de quoi je souffrais et qu'est-ce qui me protégeait. Et un jour, comme ça, puisque lui était musulman et que donc son dieu, c'était Allah, il m'a demandé quels sont mes dieux. Parce qu'un homme sans dieu ne peut pas exister, enfin, à ses yeux.
Vous en avez 3.
Alors j'en ai trouvé sur le coup 3, je les assume, là c'est vrai, je les ai écrits. D'ailleurs c'est Chrétien de Troyes, Franz Kafka et Dante. Donc un juif tchèque, un catholique italien et un écrivain français un peu étrange, une sorte de je ne sais pas trop s'il est catholique ou juif justement, c'est ça qui est passionnant. Enfin. Et en tous les cas des écrivains. Et lui voulait savoir si ces écrivains ou si la littérature... Ça agit vraiment sur le monde, si ça me protège, si je suis heureux grâce à ça. Donc c'est la question même de ce qu'il en est d'une expérience artistique. Est-ce que ça agit? Est-ce que ça protège? Est-ce que ça a du sens?
Alors justement, Yannick Enel, peut-être à propos de protection, comme à tous nos invités, on vous a demandé de choisir un son. Et voici ce que vous avez suggéré, ou à peu près.
Il est certain que c'est une mise en garde. C'est-à-dire... que l'on doit mettre en garde contre un danger. Mais il est possible que lorsqu'on a mis en garde contre un danger, on donne à celui que l'on a mise en garde des raisons de l'affronter. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature.
Je suis très heureux d'entendre Georges Bataille.
Oui, vous avez demandé donc la voix de Georges Bataille, qu'on entend ici parler de la littérature et le mal.
C'est assez rare de pouvoir l'entendre. Et Georges Bataille, pour moi, c'est quelqu'un qui précisément m'accompagne. Bataille disait la seule compagnie que j'ai eue dans ma vie, c'est celle de Nietzsche. Je pourrais dire ça de Bataille, enfin, je l'ai dit modestement. Enfin.
Et vous relisez In extenso à Florence.
Oui, c'était. Il se trouve qu'à l'Institut français, j'ai trouvé les 12 tomes des œuvres complètes de Georges Bataille. J'ai trouvé ça. Enfin, je me suis mis à emprunter le premier, puis le deuxième. Et finalement, je me suis dit, je vais faire comme quand on lit Proust ou les frères Karamazov, je vais tout lire. Et de fait, quand on cherche des munitions pour comprendre ce qu'il en est de la. Bah, du contemporain, c'est-à-dire de la politique, et puis de qu'est-ce qui peut nous arriver de poétique, qu'est-ce qui peut nous, je dis pas nous sauver, parce que là, ça serait parler de manière ancienne, mais qu'est-ce qui peut nous garder vivants. Bataille, de fait, est quelqu'un qui a compris qu'après 1945, la civilisation n'était pas restaurée. Que c'est pas parce qu'on en avait fini avec les nazis, d'ailleurs, je pense qu'on n'en a pas fini avec les nazis, mais c'est pas parce qu'on en avait fini avec cette Seconde Guerre mondiale que tout allait se rouvrir. Contrairement à d'autres penseurs français, même Sartre au fond, Bataille comprend que les temps modernes, ce grand rêve qui vient des Lumières, s'achève. Et à partir de là, penser à Lascaux ou au Marquis de Sade, ça n'est pas contradictoire. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'aide vraiment à d'une part à déchiffrer la possibilité d'avoir une expérience aujourd'hui, la possibilité de représenter quelque chose de l'ordre de l'expérience personnelle, hein, érotique, esthétique, politique. Et voilà, c'est un très bon compagnon, c'est le plus vivant des hommes. En tous les cas, voilà, Bataille, pour moi, est une ressource. Et je pense aussi, on parlait tout à l'heure avec Avi Moghrabi, de la manière dont, finalement, la fiction et le documentaire, ça n'a pas de sens de les opposer. C'est aussi quelque chose que je cherche, enfin, à démanteler les genres. Et Bataille a été l'un des premiers au XXe siècle, en tous les cas en France, à ne plus du tout opposer les romans et les essais, à mélanger jusqu'à l'impureté. C'est ce qu'il dit dans ce qu'on vient d'entendre, au fond, s'exposer à l'impureté. C'est aussi une tâche intellectuelle.
Dans votre parcours de cinéaste et d'artiste à Vimograbi, est-ce qu'il y a eu un penseur, un philosophe, un cinéaste, un artiste qui a eu cette fonction-là, comme pour Yannick Enel, quelqu'un qui a été déterminant dans votre parcours, à la fois politique et esthétique?
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Chantal Ackerman m'a bouleversé.
Avec un film précis.
Elle prend des décisions très courageuses.
Avec un film précis, Chantal Ackerman.
Look, Jean Dillman is a film that I see Jean Dillman twice a year.
C'est un film que je vois deux fois par an avec mes étudiants.
Thinking I will hold their hands for an hour until they get into the pace of the film and stay there till the end.
Je les tiens par la main pendant tout le film. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient passionnés, mais ils sont passionnés d'emblée. Bon, Chantal Ackerman
est one of my heroes.
Donc une de mes héroïnes, Chantal Ackerman.
Manu Farine.
Oui, donc on parlait, Yannick Enel, de Bataille à l'instant, mais Bataille, c'est aussi celui qui va vous permettre, notamment dans votre livre, de parler de la question de l'extase. Et sur cette question-là apparaît très tôt chez vous. Vous en parlez même à propos de votre expérience à 15 ans dans un pensionnat militaire. Et vous dites « Je sentais bien que seule l'extase pouvait me libérer de l'arraisonnement, en l'occurrence de l'arraisonnement d'une langue, hein, celle du commandement, dans ce pensionnat-là. » Quand et par quoi avez-vous trouvé, finalement, les moyens de cette extase, Yannick Enel?
Alors c'est vrai que la question de l'extase, pour moi, est quasi politique, mais c'est une politique ordinaire, enfin concrète, c'est-à-dire comment échapper, peut-être je suis un peu phobique, enfin, échapper au conditionnement, échapper à toutes sortes de conditionnements, au grappin, comme dirait Cézanne. Et l'extase est quelque chose qu'on peut si peu dire et si peu partager, au fond, qu'elle devient l'objet de l'amour. Et et qu'elle n'est pas accessible à, la, à l'asservissement. Voilà. Donc effectivement, j'avais, c'est devenu ma petite politique quand j'avais 15 ans, que j'étais enfermé dans un pensionnat militaire, parce qu'il s'agissait non pas tellement de désobéir, parce que ça aurait été trop voyant et donc récupérable, mais de dissoudre le commandement, les ordres. Et bah, je suis fidèle à ça, oui, les extases, c'est aussi très simplement une manière d'interrompre le flux de la société ou les impacts négatifs de la société. S'il existe un point où la société n'entre pas en nous, alors dans mon cas, c'est dans ces moments de plaisir où le moi n'existe plus. Voilà. Le monde existe peut-être dans le surgissement d'un loup dans une ville. Voilà, cette solitude-là, c'est celle d'un capitalisme urbanisé planétaire.
Merci à nos invités. Yannick Enel, Je cherche l'Italie, apparu aux éditions Gallimard. Avimo Grabi, l'intégrale de votre cinéma est sortie en coffret DVD aux éditions Épicentre Film. Votre installation The Details, c'est à la Maison des Métallos jusqu'au 5 avril. La rétrospective se déroule au Jeu de Paume, apparu jusqu'au 31 mars. Et je signale la parution d'un livre d'entretien, Mes occupations préférées aux prairies ordinaires. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain,
je suggère que nous rentrions et que nous élucidions cette énigme. Ah, juste une dernière chose, les enfants, j'ai remarqué que vous en faisiez peut-être un petit peu trop sur vos entrées, autrefois. Hein, on est des détectives, d'accord, on a la classe, mais essayons de faire ça subtilement.
Demain, ce sera une émission subtile, série noire, avec la romancière Anne Perry et Nathalie Benat, qui est éditrice et par ailleurs la traductrice de Dashiell Hammett. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manou Farine, Adrien Nazelli et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez, chronique Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Juliette Delperroux et Bruno Gagnard-Fontanille et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, c'est bien.